Bonjour et bienvenue, c'est la bande originale de votre été avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Frédéric Sigrist. Au programme ce matin, Louise Bourgoin, la bande originale d'Annie Dupéré et Bernard Lecoq, et en live, Lady Sir, le meilleur de la bande originale. C'est parti! Ça en fait la totale, comme ça c'est fait. Merci beaucoup d'être là, comment ça va?
Merci de nous inviter.
Dominique, Louise. Le film s'appelle Sous le même toit. Nous, on a eu la chance de le voir en avant-première et
ouais, gratos.
Et on a apprécié comme il faut le retour, j'ai envie de dire, de Delphine et Yvan. Mais et Tom, j'ai peur que vous n'ayez pas bien compris pourquoi ils étaient là, nous inviter.
Oui, si, pour le film Sous le même toit, et c'est un peu ce qui nous arrive à tous en ce moment. Je vais en parler. Alors c'est déjà c'est l'histoire d'un couple, donc Louise Bourgoin et Gilles Lelouch qui veut divorcer, mais comme Gilles n'a pas une thune, il se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Et il revient alors vivre dans ces 20%. Et c'est un peu ce qui nous arrive à nous, les Français, en ce moment. Il y a des gens qui ont 20% et forcément, ils vont nous faire chier. Voilà. Hein, on est tous sous le même toit et on est dans la merde. On a 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et je vous le dis très honnêtement, je oui. sais pas pour qui je vais voter. Je sais pas pour qui je vais
c'est
voter.
Moche.
En revanche, je sais que pour qui je ne vais pas
nombreux,
voter.
Oui.
Hein. Et oui, on est 30%. Donc, non, mais c'est vrai. Là, j'ai l'impression de jouer au qui est-ce. Est-ce qu'il a une moustache? Alors, non. Un chapeau, non.
Est-ce qu'il a une moustache?
Les yeux bleus, non. Non, mais je suis en stress. J'ai l'impression qu'on est la veille du bac et que j'ai pas révisé. Et surtout, il n'y a pas eu de bac blanc. Et ce qui est stressant, c'est de se dire, est-ce que mon vote ne va pas servir à rien? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux, je sais pas, voter utile dès le premier tour? Alors qu'au final, personne connaîtra mon vote. On n'est pas à Koh-Lanta. Dimanche soir, après la soirée électorale, on n'aura pas une vidéo de chaque Français avec son bulletin.
Ça serait drôle.
Bon, bah, j'ai voté Kelly long. Parce qu'elle mettait une mauvaise ambiance sur le com. Bon, c'est vrai. Pour vous dire à quel point je suis perdu, il y a des tests sur les sites internet pour t'aider à affiner tes votes. Même eux, ils sont pas d'accord pour moi. Il y en a un, il m'a dit Le Pen, l'autre Poutou, je suis perdu. Et en France, actuellement, on est 30% d'indécis, c'est énorme. Mais je pense que tous ceux qui n'ont pas lu les programmes, déjà, ne devraient pas voter. Les vieux, pareil. Si tu sais pas si tu vas tenir dans les 5 prochaines années, tu te mets sur le côté. Allez, c'est fini. Non, mais c'est vrai. On est 30% à pas savoir pour qui voter. Et le pire, c'est qu'on est, il y a 20% qui, a priori, devraient se décider dans l'isoloir. Ces 20%-là, je suis sûr que c'est les mêmes gens qui veulent se marier avec la femme de leur vie et pour ça, ils vont draguer en boîte de nuit. C'est... Et puis la boîte de nuit, c'est comme la présidentielle. T'as la meuf qui trouve qu'il y a trop d'arabes dans la boîte, mais elle est quand même bien contente que ça soit deux blagues qui fassent la sécu. T'as la michetonneuse qui se fait offrir sa robe, son sac et ses chaussures par un mec, mais qui te dit non, c'est pas l'argent qui compte. T'as la rabat-joie qui s'est fait planter par toutes ses copines et comme elle est toute seule, tu dis putain, c'est louche. T'as celle qui a tellement bu, on comprend pas quand elle part. T'as la meuf qui va avoir tous les mecs, qui les allume tous, mais qui va finir avec le plus riche. T'as la meuf qui s'en fout de draguer et qui arrive en survette. Et t'as la meuf qui te dit qu'elle a pas soif. Toi, tu prends une bouteille et au final, elle a bu 90% de la bouteille. Voilà. Sauf qu'avec cette méthode, pour trouver la femme de ta vie, bah, toi, tu penses que tu vas repartir avec un mannequin à 22h. Et en fait, tu vas te retrouver avec la meuf pétée à 5h du matin. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles dans ton lit, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Voilà. Donc cette année,
désolé pour hier soir.
Donc cette année, c'est la première fois où je vais pas picoler. Cette année, c'est la première fois où je vais pas picoler. Et pourtant, j'ai quand même peur d'avoir la gueule de bois.
Bonne merci, Tom Villa.
France Inter, le meilleur moment de la bande originale avec Nagui.
Mais c'est ça, c'est le retour de Delphine et Yvan. Ce sont vos personnages préférés. Ils étaient là.
Non, mais si. Je m'ennuyais un peu à l'écriture avec le nom des personnages. Et je me suis dit, pourquoi pas Delphine et Yvan? Car
la suite.
C'était il y a 20 ans.
Bah
non, ouais. Surtout pas la suite, mais c'était il y a 20 ans. Donc en 20 ans, ils ont pu se marier, faire des enfants et divorcer. Voilà, ce qui est le cycle normal en ce moment.
Oui, c'est une vie.
Alors, ils ont pas encore divorcé, justement. Le film...
Si, ils ont divorcé, mais ils n'arrivent pas à se séparer. C'est différent.
Le film
commence, il commence par une fête de divorce, ils fêtent leur divorce.
Non, il commence au restaurant.
Oui, au restaurant,
ah bah ouais, c'est ça, ouais. Mais au restaurant, c'est pas un divorce, j'ai raté quelque chose.
Non, mais ils ont divorcé, ils fêtent leur divorce. Et après, lui, il revient en disant, je ne trouve pas d'appartement.
Vous êtes sûr d'avoir réalisé le film?
J'aime beaucoup. Non, je pense que vous avez dormi au début.
C'est le restaurant de la rencontre.
Mais pas du tout. Ça commence à un mariage. Ce sont des enfants qui parlent.
Oui, mais ça, c'est un flashback.
Non.
Oui, c'est un flashback.
Non, ça commence dans un hôtel.
Non, mais vous êtes bourré.
Non, l'histoire, Dominique.
Vous êtes bourré, pardon, j'ai dit vous êtes bourré.
C'est l'inverse.
Nagui.
Laissez-moi avec Dominique deux secondes.
Je l'ai écrit.
Deux secondes.
J'ai écrit,
okay.
Je sais un peu comment on en est.
Okay. Alors,
ça commence par un mariage et la petite fille raconte, donc, mes parents allaient
donc après, le reste du film est un flashback.
Puis, non, on fait des flash-forward et des flashbacks tout le temps.
On est d'accord. Sauf que le mariage au début du film n'est pas un flashback. On est au début du film
dans un mariage, mais pas dans leur mariage.
Exactement. Et le reste, ce sont des flashbacks.
Et des flash-forward,
puisqu'on revient.
Voilà.
D'accord, ok.
C'est quoi votre théorie, Louise?
Elle n'était pas au montage, elle a tourné le film, elle ne sait pas après dans quel sens ça a été monté.
Mais c'est facile à comprendre, messieurs, ne vous inquiétez pas.
Alors, non seulement c'est facile à comprendre,
c'est le service public qui essaye de vous embrouiller, ne vous inquiétez pas. Marina arrivera dans deux semaines, dès que Marine sera là, ça sera différent. Vous aurez le droit d'aller au CSA, vous pourrez interdire des choses, déjà Delphine Arnault a peur. N'ayez pas peur pour sur France Télévisions.
Alors, je vous rappelle la règle du CSA, c'est que nous ne devons pas parler politique.
De Delphine
Arnault. Ou alors on ne doit pas parler politique.
Ou alors on parler des de tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
c'est
donc j'arrêterai de citer Jacques Cheminade.
Elle était très bien, Nathalie Arthaud.
Asselineau était formidable.
Et Philippe Poutou a acheté un nouveau t-shirt très joli.
Et allez voir le film dans la salle.
Franchement.
Merci.
Ça c'est fait. Bon,
non, mais ça va être fatigant.
Honnêtement, j'ai pas le temps d'être convoqué à la fin des missions dans le bureau, donc s'il vous plaît.
Non, vous serez pas convoqué.
La direction à venir,
j'arrête d'en parler. J'arrête.
Louise est dans une situation assez originale parce que finalement on apprend que c'est vous qui êtes le détonateur de l'histoire. C'est vous qui allez dire finalement ce couple, est-ce qu'on ne chercherait pas à pimenter un tout petit peu la vie, à se permettre, à s'autoriser comme un couple d'amis à faire certaines choses.
C'est vrai.
Et
mettre un peu d'étincelle, un peu de piment dans notre vie de couple, je propose d'aller voir ailleurs, sauf qu'il attend même pas 24 heures. Donc finalement,
donc là,
je le prends très mal.
Et là
il dégage.
Les fameux fringues dans le sac poubelle que certains ont connu avec le
voilà, tu exactement. Sors
vous parlez pour qui? Pour Thierry Lhermitte, je suppose.
Et tu te casses et c'est pas autrement. Mais le problème là-dedans, c'est que finalement, les parents sont les moins mûrs de l'histoire. Les enfants sont très très mûrs. Il y a deux enfants au milieu.
Ouais, c'est
et
vrai.
C'est eux qui ont la sagesse.
Ouais, et puis c'est une anti-comédie romantique. C'est ça qui me plaît. C'est une comédie de remariage en fait. Et ce qui est amusant dans tout ça, c'est que elle essaye de refaire sa vie et malheureusement, bah, il est à la maison. Donc il est témoin de ses frasques. ils ont des amis communs, mais donc quand lui essaie de les voir sans elle et que je débarque, bah, c'est un drame parce que j'ai l'impression que mes amis m'ont trahi. Enfin voilà, mais il y a plein de gens qui ont connu ça. Il y a énormément de gens.
Il y a des règlements de compte et apparemment c'est une situation qui se produit de plus en plus. C'est-à-dire on n'a pas les moyens de vivre le divorce, de se séparer, de payer deux loyers, de payer deux fois pour les enfants. Les enfants d'ailleurs sont minés. Ils disent, je comprends pas. Moi, tous mes potes qui ont des parents divorcés, ils ont deux fois plus d'argent de poche et deux fois moins de bonnes notes.
Cinq fois plus d'argent de poche et des
notes plus mauvaises. On a raté notre divorce. Les enfants se disent entre eux, on a raté le divorce de nos parents. Et c'est eux qui reprennent la situation. Maintenant, c'est extrêmement drôle, très rythmé. Il y a des pures vannes. On va citer le casting parce que
Manu Payet, Marie-Lou Berry, Julien Boisselier qui joue mon amant.
Qui est parfait. Il est parfait, ouais. Julien Boisselier. Il est parfait. Il a pas beaucoup de scènes.
Marianne Chazelle,
elle est très très juste. Marianne Chazelle qui fume des pêtes.
Joséphine Drey.
Et oui, c'est vrai.
Dans une toute petite scène, mais magnifique.
Mais comme elle fait partie de la famille, si tu veux, on se sent. On a crié quand on l'a vue dans le film. Hein.
Elle est super, elle est géniale.
À l'hôpital. Enfin bref, ce film Sous le même toit est parti de quoi? D'un article que vous avez lu. Vous êtes dit, c'est vrai que c'est un phénomène en ce moment.
C'était un petit article dans Libération il y a 5-6 ans qu'un camarade m'a fait lire. Et je me suis dit, ça peut-être donner une histoire drôle. Et puis après, je m'y suis repenché. Et puis en fin de compte, on arrive à tordre l'histoire pour qu'elle soit suffisamment drôle.
Ouais, non, parce que c'est vrai que c'est drôle. Et en même temps, tout est vrai. Chacun peut se retrouver ou des potes ou soit dans des situations assez particulières de vie quotidienne dans le film.
Mais d'où la difficulté quand on se sépare tout d'un coup d'avoir deux appartements avec des chambres en nombre suffisant pour accueillir les enfants. Tout d'un coup, c'est quand même un vrai budget. On parle de la région parisienne, mais on pourrait parler d'autres régions en France, de grandes villes en France.
Ouais, d'autant que là, ils sont bien logés parce qu'elle a hérité de la maison ou de l'argent de papa. Donc,
ils ont un certain train de vie.
Ils ont un pavillon, voilà, ils ont un joli pavillon dans Paris avec un jardin.
Oui, ils ont un certain train de vie, enfin, pas tant financier que la résidence, c'est quand même très agréable. Donc tout d'un coup, il faut arriver à se mettre d'accord et la femme en position majoritaire, enfin en tout cas, et ça c'est important aussi symboliquement dans ce film, de voir que c'est elle qui a quand même le pouvoir.
Ouais, c'est vrai.
Que généralement, on pourrait imaginer que ça serait plutôt l'inverse.
Ça commence, hein, disons, retour de vacances.
C'est ce qui fait la modernité de cette comédie. C'est ce qui fait la modernité de cette comédie.
C'est un film féministe. Mais vraiment, hein, au sens propre du terme, je suis extrêmement féministe.
Non, et puis le personnage de Marie-Lou Berry aussi est clé dans les quelques réflexions qui sont distillées. Il y a juste le sage, il y a le bouddhiste de l'histoire, Manu Payet, oui.
qui a cette phrase formidable qui dit « Ma vie sexuelle passera toujours avant notre amitié ». Ce qui est vraiment d'une sagesse forte.
D'une sincérité absolue. Ouais.
Parce qu'il y a au début du film aussi Gilles Lellouche qui se retrouve donc mis à la rue par Louise Bourgoin et qui va aller voir ses potes en disant « Est-ce que tu peux m'héberger, ne serait-ce que pour une nuit ?» Et c'est là où il y a cette espèce de zapping, en fait, de porte en porte comme ça, où il va vous voir, y compris vous d'ailleurs,
et
il va voir
et tous ses potes. Le passage qui m'a fait le plus rire, c'est avec Dominique Farouche.
Tu joues très bien, Dominique. Tu dis que tu joues mal, mais c'est faux.
Non, mais c'est pas que je joue bien, c'est de l'impro.
C'est pire, facile. C'est encore mieux.
Non, mais c'est facile. Je suis assis sur une chaise roulante, vas-y.
C'est extrêmement drôle. Tout le film est drôle. Il y a de très bonnes vannes qu'on va évidemment éviter de vous raconter parce que c'est impossible à raconter ce genre de vannes. Il faut les voir. Mais si vous aviez, de toute façon, moi j'ai retrouvé le ton et le rythme qu'il y avait déjà dans Delphine 1, Yvan 0. C'était, il y avait déjà ces punchlines, des vannes faites sur des textes de chansons. C'est Michel Delpech, je crois.
Oui, on a essayé de faire avec mon co-auteur, on a essayé de faire un truc enlevé, drôle, et avoir quelques points qui sont des points pour lesquels on a un peu sensibilité, comme c'est vrai la chute d'un homme qui a plus d'argent, qui a plus de toit, qui termine
qui
à la rue,
qui a pas de boulot, qui vit la crise en plein
gueule, ouais. Comme de même que le harcèlement à l'école sur les enfants, voilà, c'est quelque chose qui me touche. On en parle en très peu de temps, mais c'est voilà, on a essayé de faire ça de manière avec Laurent Turner, de manière drôle, mais et c'est jamais appuyé, mais on essaie d'en parler.
Et connecté quand même à la vie de tous les jours, et chacun peut se retrouver, se reconnaître là-dedans. Sous le même toit sort demain donc avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marie-Lou Berry, entre autres, et on voulait dire un casting qui.
Adèle Castillon, c'est ça, hein, qui est cette jeune youtubeuse.
Oui,
ça,
mais je l'ai pas castée en tant que youtubeuse parce que je ne savais pas qu'elle faisait, elle avait une chaîne YouTube. C'est après quand elle est venue dans mon bureau, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais, tu t'amuses, ah non, j'aime jouer la comédie, j'ai une chaîne YouTube, ah ouais, t'as un peu de gens qui te suivent, ouais, 400 000, 500 000, ah non, t'as des vues, ouais, 1 million, 500 000, ça te dirait de faire une vidéo avec moi, ouais, bof, c'est pas trop de mon âge,
vous êtes resté connecté en même temps,
ouais, très 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 connecté, donc voilà, c'est très étrange, mais il y a Kolia Abitbol aussi, qui est un super acteur formidable, petit garçon qui passe de Walt Disney à YouPorn comme ça.
Ça fait partie de la BO du son de Cassius.
Ouais.
Ah bien, alors, ce qui fait vraiment comédie romantique, même s'il y a un décalage, il y a un petit contre-pied par rapport aux autres comédies romantiques, et c'est ça qui fait sa particularité. Et il y a évidemment le titre parfait pour la comédie romantique.
Ah, là, il y a le DJ qui se réveille.
Selon Nagui, bien entendu.
Et ouais, mais t'entends ça, tu vois.
J'ai l'impression qu'il y a Hugh Grant qui va arriver, les cheveux mouillés avec des fleurs.
Exactement, exactement.
Sous la pluie,
ça va bien.
Sous la pluie. Si les vacances étaient bonnes, quoi.
Grosso modo. Bah, t'as pas Hugh Grant, t'as Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. Ça va?
Tranquille.
T'as un truc à dire? Vos oreilles ont sifflé quand on vous a annoncé la venue de Louise Bourgoin et de Dominique Farrugia.
Oui, et quand je pense à vous, Louise, je pense à une femme, à une aventurière qui n'a pas froid aux yeux, une certaine Adèle Blanc-Sec.
La mort est le seul chemin qui mène à la naissance.
Professeur, écoutez-moi, j'ai retrouvé la momie de Patmosis.
C'est pas possible,
mais j'y suis arrivée quand même.
Voilà un film de Luc Besson où Gilles Lellouche était déjà présent au casting. Il y a un fou rire là, Louise, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais c'était il y a un bout de temps maintenant. Ouais. Je trouve que j'avais une voix de jeune fille. Je trouve que j'ai pris en maturité au niveau de la voix.
Un peu de testostérone.
Voilà. Donc il y avait Gilles Lellouche au casting du film. Donc c'est pas la première fois que vous tournez ensemble, même si vous n'aviez pas de scène vraiment, enfin pas beaucoup de scènes en commun. C'est votre premier grand rôle et je me demandais, c'est pas forcément simple. De s'attaquer à Adèle Blanc-Sec. C'est un personnage de bande dessinée qui est très connu. Pour travailler un rôle comme celui-ci, pour une première fois, ça devait être assez compliqué.
c'était pas mon premier film, parce que j'avais déjà joué dans La fille de Monaco d'Anne Fontaine, mais ce qui était très difficile, rôle, c'est que c'est une BD pour adultes, très noire, un peu anard en fait, et Tardis est d'ailleurs un peu lui à travers Adèle Blanc-Sec, donc elle boit du whisky, elle est comme ça très solitaire, très très dure, elle déteste sa sœur, elle dit que le pire jour de sa vie, c'est quand elle a passé une après-midi en banlieue avec sa sœur, etc. Alors que dans le film, Luc Besson a voulu un peu ouvrir et faire une sorte d'Indiana Jones au féminin, qui touche aussi les enfants, et donc il lui a donné du cœur et de l'empathie tout d'un coup. Oui, elle est émue parce notamment. Qu'elle a blessé sa sœur, etc. Et c'était difficile pour moi de retrouver en fait le ton de Tardi et de le concilier avec les sentiments et la bienveillance de Besson.
Mais surtout qu'il faut préparer un rôle comme ça, se dire tout le monde a un imaginaire très très fort sur Adèle Blanc-Sec.
En plus.
On ne sait pas comment elle marche, on ne sait pas. Enfin, la bande dessinée, pour le coup, c'est une succession d'images qu'on va animer dans notre tête, mais c'est le travail de la comédienne, pour le coup.
Oui, alors la marche, là, c'est Luc Besson avait une idée très très précise. Hein. Ah, d'ailleurs, il imitait très souvent Adèle Blanc-Sec, ça donnait quelque chose de très étrange.
Ah,
parce
c'est
qu'il
ça qui fait les filmer.
Oui, ça, je regrette que personne ne l'ait vu, parce que ça aurait pu faire un très bon making-of.
Et quand je pense à vous, Dominique, je pense à un OTNI, un objet télévisuel non identifié, objectif nul.
À des millions d'années de la Terre, un équipage, Zetoun, l'Audace, Montag, Panty, Sergent Garcia et le Capitaine Lamar dérivent dans le cosmos à bord du Libérator. Leur objectif, nul.
On aurait pu en mettre très longtemps parce que
c'est j'ai l'impression que c'est une journée spéciale parce que Chantal Lobby
Chantal était chez Augustin
était tout chez Augustin.
Ah, elle était chez Augustin, ouais. Ouais, j'ai pas entendu.
Et ils ont passé des extraits des nuls et là on trouve Dominique avec extrait d'objectif nul.
J'ai pris
c'est
juste
cool.
Le début d'un objectif nul.
Ah mais c'est bien. C'est nouveau.
Je fais découvrir ça aux auditeurs.
C'est gentil, ça date de 87. C'est bon.
Ça. Le problème, c'est que ça colle tellement à nos vies que.
Je sais, non,
j'imagine que ça doit vous enquiquiner.
Ah non, ça m'enquiquine pas du tout. Du banquier du monde au cinéma à demain.
France Inter, la bande originale, le best-of. Avec Nagui.
C'est Rachida Brakni, c'est Gaëtan Roussel, ça s'appelle Lady Sir et ils interprètent Je ne me souviens pas. J'adore cette chanson écrite par Clarisse sur l'album Accident New York.
عليك يا روحي ما يجينيش النوم سهرة نبكي ودموعي تجري بيني بينك العينين
شو نسيبا جنو مصوب يا با Je ne t'en veux pas, tu te rappelleras de ça.
Mais n'espère cher Ali qui est rohi. Mais j'ai niche un homme sahra. Le p'ki ou de moi et t'jri. Bini bina. العينين
Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas Je ne te mens pas, tu te rappelleras de ça Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas Je ne te crois pas, tu te rappelleras de ça
برشا عليك يا روحي ما يجينيش النوم سهران نبكي ودموعي دموعي تجري Je me souviendrai pas de toi bien mieux comme ça Toi tu te rappelleras de moi C'est mieux, bien mieux comme ça
avec Je ne me souviens pas. Merci Rachida Brakhi, merci Gaëtan Roussel, merci les garçons, bonne tournée.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
Voici l'humeur de Frédéric Siviste.
Bonjour Annie Dupéret.
Une semaine de Noël.
Oui. Bonjour Bernard Lecoq. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'est pas loin de Noël. Vous êtes ici pour la 13e saison d'une famille formidable.
Oui.
Bah oui.
13e saison.
Et alors
on est d'accord qu'après 13 saisons à jouer au couple marié, on peut parler d'une deuxième vie.
Il y a un peu de ça. Vas-y, balance ton couplet sur ta double vie, première épouse.
Oui, c'est ça,
épouse.
Je suis première épouse Attaque. Pendant les tournages. Ça, son épouse, on est épouse dans la vie depuis 40 ans.
D'accord.
Quel courage. Laisse le premier rôle pendant quelques mois.
Et ça, j'avoue, quand je vous écoute, ça me dépasse un peu. Parce que la vraie vie, c'est pas glamour. La vraie vie, c'est un dimanche de novembre sur le parking d'une zone commerciale à Longwy. La vraie vie, c'est François Fillon qui t'annonce que t'as pas assez cotisé. La vraie vie, c'est chiant. La vraie vie, c'est payer des factures, la taxe d'habitation, faire des courses, des lessives, gérer l'éducation des enfants, la crise d'adolescence du grand ou de la grande. Et vous, depuis des années, quand vous abandonnez la vraie vie pour faire votre métier d'acteur, un métier qui fait rêver, où on réalise ses rêves d'enfant en étant astronaute, cow-boy, gangster, eh ben vous... Vous faites semblant de payer les factures, de faire des courses, des lessives, vous gérez l'éducation des enfants, la crise d'adolescence du grand. Mais il y a là une formidable mise en abîme de l'existence. 13 saisons d'une série. Vous vous rendez compte que pour un acteur de Game of Thrones ou de Walking Dead, ces séries où un personnage principal meurt tous les 3 épisodes, vous êtes une légende urbaine. Hein, vous êtes les Highlanders de la série télé. La seule famille qui peut vous concurrencer, c'est les Simpsons. Une chose est sûre, si on avait voulu faire la série avec ma famille... On tenait pas 13 saisons. 13 minutes à la limite. Au-delà de ça, c'était un massacre collectif. Parce que moi, j'ai une famille qui ressemble à une primaire socialiste. C'est-à-dire des tas de courants, des tas d'avis, pas un d'accord avec l'autre. C'est par paresse qu'on les a classés dans la même famille. Hein. Du côté lorrain, mes oncles et tantes, ils s'entendent comme Christiane Taubira et Emmanuel Valls. Et du côté guadeloupéen, pour bien comprendre à qui on a affaire, il suffit juste de savoir que mon père est né en 1945 et que ma grand-mère l'a appelé, je vous le donne en mille, Adolphe.
Non.
Si, c'est vrai. Mon père s'appelle Adolphe.
Je te crois pas.
Si, c'est vrai, tout est vrai. Ça s'invente pas.
Je te crois pas.
Allez, je pense que mon père devait s'imaginer être en Allemagne quand il est tombé amoureux d'une Lorraine.
Oh non.
Ah si, il y a des questions, j'ai eu la réponse avec le temps. Hein. Dans ma famille d'ailleurs, on ne dit pas qu'il y a des cadavres dans le placard, on dit qu'on range chez Slip au cimetière.
Ah, c'est vrai.
Noël approche et moi je redoute ce moment comme la peste. Hein. Ah, ce moment merveilleux où je vais me retrouver cerné par ma famille qui va me demander « Alors Frédéric,
En vrai, il est gentil, Nagui, hein. Et tu vois, j'ai vu Leïla à la télé, là, et Emiliane, hein. Et le pire, Emmanuel Barré, oh, qu'est-ce qu'il y va? Pourquoi t'essaies pas d'être drôle comme lui? Et sinon, globalement, t'as fini par en vivre?
T'as un métier?
Comme chaque année, je vais me mettre à picoler pour oublier où je suis, et c'est à ce moment précis que je vais tomber sur ma belle-sœur, uber féministe, qui me déteste. À côté d'elle, les fémènes, c'est des amis, hein. Tout ça parce qu'elle s'est mise dans la tête, et depuis longtemps, que je suis une sorte de mélange entre un taliban et Landru. Parce qu'un jour, j'ai dû lui dire, alors que j'étais bourré, qu'elle me cassait les couilles un peu sévèrement. Ah, et heureusement, on va bien manger. Et souvent, les gens se demandent pourquoi on mange beaucoup aux fêtes de fin d'année. Eh bien, c'est parce que c'est plus compliqué de s'envoyer des saloperies la bouche pleine. Non, vraiment, ma famille est tout sauf une famille formidable. Et quand je regarde votre série, donc La Famille Formidable, et que je compare avec la mienne, je me dis toujours, qui a dit qu'en France, on savait pas faire de la science-fiction?
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
La bande originale d'Annie Dupéré et de Bernard Lecoq, on a pris comme ça quelques années peut-être en commun. Vous, Annie, la rencontre avec Jean-Louis Barrault, vous, Bernard, votre premier film. À ce moment-là, Bernard Lecoq, écoutez. She came in through the bathroom window.
Merci, d'avoir... Aimé, hein.
Merci d'avoir choisi un titre aussi court.
Il y a au moins 12 profs d'anglais qui viennent d'avoir une rupture d'année. Impeccable.
Daniel,
impeccable.
Daniel Morin,
il a bien descendu.
Daniel Morin est ma caution.
Non, c'est impeccable.
Tu veux te augmenter, toi.
Joe Cocker. C'est ce genre, c'est moi qui décide.
Je pars de loin.
Joe Cocker, oui.
C'est qu'un euro, c'est doublé. Hein.
C'est votre choix. Enfin, c'est ce que vous écoutiez dans les années 70.
Oui, enfin, j'écoutais ça. Un peu tout, Stones et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier, je vous fais chialer. Quand je tournais ce film, c'était un film d'Edouard Molinaro, mon père est mort. J'avais 20 piges, et alors j'étais en voiture, et j'allais chez ma frangine pour lui annoncer la bonne nouvelle, et il y avait ça à la radio. Donc c'était quand
même un moment... Ah oui, n'oublie pas.
C'est quand même joli, quoi.
C'est Michel Boiron, en fait, qui...
Au tout début, ouais, quand j'étais mouflé, ouais, qui...
Qui vous cherche et qui vous propose votre premier rôle.
Non, il ne m'a pas proposé un premier rôle. J'ai commencé avec Michel Boiron dans un film avec Renaud Verlet et Nathalie Delon. Ça s'appelait La leçon particulière.
Oui,
jouait le copain de... Voilà, de
non, j'ai
de
pas dit Renaud. Un premier rôle, votre...
Ah, bon, mon premier... rôle, voilà.
Première apparition, celui d'un puceau. Vous aviez...
Oui, bah oui, j'étais là, comme ça, et alors j'avais une scène, comme ça, avec une très jolie fille, et puis alors je savais pas trop comment j'allais m'y prendre, et il y avait une photo de Marlon Brando. Alors, je disais, bah, faut pas être timide, mon petit poulet. Je disais, bah, c'est pour ça, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on est trois.
Avec une fausse méfiance. Ouais. Ça, vous dites que ça a été un coup de bol énorme. Comment vous êtes retrouvé propulsé devant la caméra?
C'était un coup de bol parce que j'ai des copains. Mon copain Gérard Palapra, avec qui j'étais à l'école, lui avait commencé à prendre des cours d'acteur et tout ça, et il a eu ce rendez-vous. Pour un casting, comme on disait pas encore à l'époque. Et puis il m'a dit, bah viens, on sait jamais. Et j'y suis allé, et puis ils m'ont pris. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle du bol.
Plus parce que vous accompagnez un pote que...
Ben oui, chose. Parce que j'avais pas rendez-vous, ouais. Moi j'avais pas d'agent et tout ça, donc ça a été un coup de bol.
La même chose avec Popescu.
C'est-à-dire ?
Ben c'est une copine qui allait faire le rôle, et puis elle m'a dit, bah viens, on va aller au cinéma après. Bon, j'attendais en coulisses. Et j'entendais la voix de Popescu dans la salle, comme ça, au fond, etc. Je l'avais jamais vu, moi. Alors j'ai passé la tête et j'ai entendu « Hep, mademoiselle !»« Vous voulez lire, s'il vous plaît ?» Et j'ai fait le truc, on a pleuré avec ma copine après. On s'est dit, on ne peut rien faire, quoi. C'était...
Le destin.
Oui, c'est fou, hein.
Vous, dans ces années 70, vous rencontrez Jean-Louis Barrault, une rencontre qui est arrivée au bon moment, en fait, dans votre vie.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais fait le conservatoire, donc j'avais joué avec Popescu, puis comme j'étais très jolie fille, hop, les films s'enchaînaient un peu comme ça. Bien,
je rassure tout le monde, le bisou que vous entendez, c'est Bernard Lecoq, c'est pas nous. On se permettrait pas.
Non, c'est Annie toute seule.
Et puis un jour, j'ai eu un choc, je tournais un film, je sais plus du tout lequel c'est, et puis il y a le producteur, je crois, qui parlait avec le metteur en scène à quelques pas de moi, et qui disait, attends, on a du pot quand même, et puis au moins aligner trois phrases, elle est pas mal, etc. J'ai regardé derrière de qui il parlait, C'était de moi, dis donc, qui sortait du conservatoire quand même.
Mais vous dites là, que vous étiez dans la dèche.
Ils n'attendent de rien de plus, quoi.
Que juste... quelqu'un caligne quelques phrases, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Ils sont montés parce que j'étais belle. Ils se disent, ouf, au moins, elle peut jouer un peu à la comédie. Et à chaque fois, je disais, vous savez, je fais du théâtre. Bon, rien à foutre. Donc, je me suis dit, il faut que je revienne au théâtre. Absolument, absolument. Parce que je ne prouverai jamais rien là. Et donc, j'ai rencontré Jean-Louis Barrault. C'était formidable.
Un deuxième père.
Oui. Oui, un père. J'en ai eu deux pères de théâtre. J'en ai eu un pinailleur, c'était Jean Mercure, que j'ai rencontré quasi en même temps. Et puis Jean-Louis, qui me lâchait sur scène et qui me disait « t'es ma fille de théâtre. Allez, vas-y, vas-y. Allez, mal, mais vite. »
C'est ça, j'adore la formule. Mal, mais vite. En 92, donc, le début d'une famille formidable. À ce moment-là, accrochez-vous, Bernard Lecoq. Écoutez.
Wow. Bravo, Bernard.
Les cheveux gras. Dans ces années 90,
j'aimerais bien te voir.
J'aurais voulu être un sexe symbole, mais ça s'est pas fait. Alors voilà, donc.
J'aime bien ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait. Il est pas trop tard.
C'est le bout de la route.
92, vous êtes nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle pour l'interprétation de Van Gogh de Maurice Pialat, que l'on a évoqué tout à l'heure. Vous jouez aussi dans la série Une famille formidable, ce qui est un peu un paroxysme, c'est-à-dire qu'on oppose toujours télé et cinéma. Et là, se retrouver à la fois au César et en prime time sur TF1.
Oui, c'était vraiment un coup de bol. Je me disais, il va falloir que ma carrière brillante prenne un autre tour. Et puis, en effet, ces deux affaires-là sont arrivées à peu près en même temps. Le Pialat, ça m'a refilé un petit coup de projecteur, un petit coup de prestige au cinéma. Et puis, le succès et l'amitié qui est venu avec la famille formidable, ça permet de passer à la radio. Moi, je dis que c'est bien.
En 92, les séries télé étaient quand même vraiment moins bien considérées que maintenant. Donc ça devait créer quand même un gap, un gouffre beaucoup plus important que là de le dire sur le papier, une série et puis là.
Oui, enfin à l'époque, je me rendais pas compte, on comptait pas tellement comme ça à l'époque. Non. On se disait voilà, on fait des films, on fait la télévision. On savait en effet que si on faisait beaucoup de télévision, forcément ça fermait un petit peu les portes au cinéma. Parce que au cinéma, les gens, en tout cas les décideurs, doivent penser que si on voit trop les gens à la télévision, ils vont pas venir au cinéma. Ce qui est en train de changer totalement. Enfin, le phénomène du jardin, le phénomène de tout un tas,
producteur
de Kedek et tout ça, maintenant tout ça circule de la télévision au cinéma.
Un grand producteur de cinéma m'a dit, il n'y a aucune raison d'aller payer pour voir quelqu'un que l'on a gratuitement à la maison.
Voilà, sauf qu'aujourd'hui ça a été totalement démenti par en tout cas de jeunes gens que par la petite Alexandra Lamy, par enfin, un tas d'actrices et d'acteurs qui aujourd'hui sont des vedettes de cinéma en ayant commencé à la télévision. Quoi.
Oui, mais en ne retournant pas à la télé.
Ils y retourneront parce qu'il y a aussi à la télévision de quoi faire des choses tout à fait épatantes, en particulier le fait de pouvoir raconter de longues histoires. C'est quand même
formidable.
La spécificité de la télévision.
J'avoue que je suis très très fan des séries, pas tout, hein, mais parce que justement on revient quelque part à un cinéma de papa. On prend le temps, il y a des grandes scènes, il y a des séries que j'ai aimées dernièrement, mais il y a des scènes de 25 minutes, c'est quand même génial, entre deux personnes.
Quelle série, par exemple, vous aimez ?
Oh, j'ai été enthousiasmée par un truc qui est fait par un acteur, un stand-up new-yorkais qui s'appelle Louis C.K. Qui a fait Horace and Peter. Oui. Horace and Peter, c'est extraordinaire. C'est du théâtre, hein. C'est du théâtre. Il y a ces 4-5 fabuleux acteurs et des guests qui sont des acteurs de théâtre, ça se voit tout de suite formidable. Et il y a deux décors. Ils ont fait ça avec 3 balles entre eux. Il y a Edie Falco, qui était la femme des Sopranos, qui est absolument géniale. Steve Buscemi, c'est vrai qu'il était un acteur. Et Louis, et ça raconte, c'est d'une subtilité de narration, de tout.
Pour l'anecdote, lorsque Louis C.K. est venu et s'est produit l'été dernier à l'Olympia, la salle était remplie d'humoristes français qui venaient c'était plus un spectacle, c'était une masterclass.
Oui, moi, je suis.
Il a fait une série aussi qui s'appelle Louis, qui est excellente.
Oui. Ouais, ça dépote. Hein. Mais Horace and Pete, ça, c'est profond. Ouf.
Non, mais il est très 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 bon.
Oula. Mais ils font des scènes de 25 minutes.
Il y a un épisode dans ce Horace et Pete, il y a un épisode, c'est une scène à deux entre deux personnages qui dure peut-être même tout l'épisode. Ah
bah, alors justement, l'enchaînement est tout trouvé avec Alexandre Le Train. Merci de venir à ce micro, Alexandre.
Je suis ravi.
Journaliste, semaine de Noël, c'est sympa.
Spécialiste des séries françaises. Vous animez la loi des séries sur la radio numérique Radio VL.
Ouais, tout à fait.
Tous les mercredis de 11 à 12h30, c'est pile en face de nous. Il va falloir s'arrêter.
Oh le mafieux.
Il a raison.
Je vais décaler pour vous.
Et on vous a pas invité, en fait. On vous a demandé de venir pour vous menacer.
Pour vous écarter de l'antenne.
Maintenant que c'est fait, vous pouvez repartir. On va pas sortir de grands raisonnements autour des séries, mais quand vous entendez Annie Dubéry dire voilà moi ce que j'aime dans les séries, voilà les raisons pour lesquelles je trouve ça plus agréable d'être dans une série que dans un film, est-ce que c'est pour vous la raison du succès des séries, qu'elles soient françaises ou étrangères?
Ah bah déjà quand je les entends tous les deux dire ça, moi je suis obligatoirement ravi parce que il y a eu pendant très longtemps, vous le disiez, un snobisme du monde du cinéma et du théâtre vers la télévision. Il y en a encore. Je ne titrerai pas de comédien ou de comédienne, mais il y en a encore qui crachent sur la télévision, de moins en moins. Et il y a une vraie authenticité.
C'est peut-être ceux qui ne sont pas engagés par la télé qui crachent sur la télé. Non.
Alors si, je ne citerai pas de nom, mais j'ai une comédienne en Italie. Je ne citerai pas de nom, Mathilde Seigné.
Merci.
Qui dit... Ouais, vous comprenez, moi j'aime bien la télé, c'est sympa, mais c'est un peu fatigant quand même. Donc voilà. Donc
pour le rythme de travail.
Ouais, pour le rythme de travail, c'est trop fatigant, faut travailler pendant 4 mois d'affilée, c'est trop épuisant.
Je crois qu'il y avait un rôle écrasant avec ça.
Mais ça peut s'entendre, ça peut s'entendre.
Non. Ça peut pas s'entendre. Non. Ça peut pas s'entendre. Pourquoi? Parce qu'on a ici de brillants
c'est
comédiens.
Pas la mine de sel, hein. C'est pas la mine de sel, le travail.
Non, mais en
télé,
fait, ils jouent depuis 25 ans dans une série en passant du cinéma à la télévision et au théâtre et qu'ils le font de manière brillante parce que c'est aussi ça le succès d'une famille formidable. C'est déjà parce que c'est vachement bien et que ils jouent très très bien. Oh. C'est des brillants comédiens. Oh. Alors il y a des passages.
Ça dépend des saisons.
Oui. Ça dépend des saisons.
Il y a
d'accord.
Des flottements.
Très bien.
C'est on est d'accord.
Ah, moi, c'est des fois, on a été malade.
On s'est senti un peu moins fort. Mal dirigé. Oh, bah, allez. C'est tout.
Chacun son métier. Justement, est-ce que pour expliquer le succès d'une série, dire que les comédiens sont bons, j'entends que il y a aussi les histoires, parce que pour être bon comédien, il faut porter quelque chose, avoir une bonne histoire à raconter.
Bien sûr.
Et une bonne histoire, ça se définit comment? C'est celle dans laquelle on peut se projeter, dans laquelle on se sent concerné, parce que c'est un rapport avec la vie de tes spectateurs.
Ce qui est fort dans Une famille formidable, c'est que c'est le parfait mélange entre la vie réelle et la vie fantasmée. Les gens peuvent se retrouver parce que les thématiques qui sont abordées, vous l'aviez dit, dès 92, on parlait quand même de couples homosexuels, on parlait de maladies, de sujets qui sont quand même très anxiogènes, selon les chaînes de télévision. Et en même temps, on se retrouve dans une famille idéale, avec plein de...
Qui sauve.
Ouais, exactement. Et ça se finit toujours bien, en général. Et je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est que vous avez une grande famille qui s'est étendue au fil des années, avec une galerie de comédiens qui sont tous plus...
Ça se finit mieux en général sur une saison, mais il y a toujours le coming next, il y a toujours la dernière scène avec... que va-t-il se passer après les pubs?
C'est ça.
Ça c'est...
Et c'est encore plus radical sur le 52 minutes, parce que la découpe est mortelle.
Autrement dit, ils ont su évoluer avec la société.
Ils ont su évoluer avec la société, ils ont su aborder des thématiques comme on le disait, et puis ils ont su aussi utiliser la pop culture. Moi je me souviens d'une saison où on faisait référence à Lost, vous étiez coincé sur une île déserte. Ils ont regardé un petit peu ce qui se passait à droite à gauche. Et je crois qu'à l'heure où on parle.
Ils se sont reperdus sur l'île de la Réunion. Donc ils ont pas
mangé pas mal d'îles. Hein.
On était proche de Saint-Avry, même à la fin de cette série-là. Quand on pliait un palmier pour envoyer comme catapulté tout l'autre dans les airs, franchement, on était dans le dessin animé.
C'est sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de séries qui ont une vie aussi longue, 25 ans? En France, il n'y en a pas tellement. Et aux États-Unis, il n'y en a pas tellement. En général,
c'est
en Angleterre. Il y a Doctor Who qui dure depuis 60 ans. Dallas, ça a duré que 13 ans, finalement.
Enfin, Dallas, tu l'as vu pendant 30 ans, mais ça n'a duré que 13 ans.
Les feux de l'amour, c'est des
produits. Alors voilà, il y a le cas des soaps qui sont les feux de l'amour à Mont Gloire.
C'est pas la même catégorie.
C'est pas la même catégorie.
C'est pas écrit de la même manière, c'est quand même pas joué de la même
manière. C'est mieux quand même.
Alors je pense que ce qui les a sauvés aussi, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas là tous les ans. Oui. Il n'y a que 3 épisodes par saison. Les auteurs sont absolument pas rincés en termes de production, parce qu'aux États-Unis c'est quand même 22 épisodes par an.
Coronation Street qui est
depuis 50 ans, 60 ans même.
60 ans.
Je crois que c'est depuis le début des années 60.
Vous êtes prêts tous les deux ou pas?
Oui, enfin, encore 40 ans. Un peu.
Je vais retourner encore plus vite.
Il y a une nouvelle forme d'écriture aussi avec Fais pas ci, fais pas ça, qui partait presque d'un rythme à la sitcom, c'est-à-dire des sketchs très rapides et moins sur des séquences longues, jouées moins sur des plans séquences, avec presque des scénettes et des histoires croisées.
On avait dit qu'elle s'inspirait un peu qu'elle avait inspiré la série Modern Family qui existe aux États-Unis. Alors je pense qu'ils ont un peu piqué le concept et qu'ils l'ont après développé. Mais ensuite, on voit bien,
inspiré.
Inspiré.
Modern Family,
qui est une formidable sitcom. Et d'ailleurs, c'est assez drôle quand on rencontre l'équipe de Fais pas ci, fais pas ça, ils parlent de famille formidable, moderne. Voilà, il y a toujours cette référence à cette série originale qui, franchement, moi, c'est un cas d'école parce qu'à la télévision française, à part Camping Paradis ou Joséphine Ange Gardien, il n'y a pas d'exemple de série comme ça qui dure sur le temps.
Bah, je crois qu'il y a un vrai.
Il y a plus belle la vie depuis 10 ans.
Et qui marche encore.
On est dans plus la sitcom que dans un feuilleton écrit, oui, dans d'accord. une fiction écrite. Parce que déjà, le rythme, je ne me rends pas compte.
Un épisode par jour de tournée. Pour plus
par jour
vie. Oui, à peu près.
Oui, oui. Et des épisodes de 20 minutes. Hein.
Au purin, comme
on est sur le modèle des Feux de l'amour ou de Gloire et Beauté.
Ouais, c'est ça.
250 épisodes par an.
Est-ce que vous voyez déjà poindre ce qui va nous arriver dans les séries, qu'elles soient encore une fois étrangères ou françaises, dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a une tendance?
Il y a une grande tendance, c'est la mini-série. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs comme ça qu'on attire vers la télévision des comédiens de cinéma. C'est des séries événements sur 6 épisodes. On les embarque
comme
dans
10%.
Une aventure. Alors 10%, il y a déjà une saison 2, mais par exemple, vous avez Emmanuel Seigné et Melville Poupeau qui tournent dans une série pour TF1. Qui va être un thriller. Il y a Carole Bouquet qui arrive dans une série policière pour TF1. Donc on a des castings comme ça qui sont assez surprenants, antinomiques avec des chaînes
C'est comme
TF1.
Un grand film. Voilà, c'est un comme grand un film grand... de 6 heures.
Oui, mais il y a quand même le respect de cette notion de rendez-vous et comme disait Nagui, de cliffhanger à la fin des saisons, à la fin des épisodes.
J'ai jamais dit cliffhanger.
Je
ne connais pas ce monsieur.
Il dit très souvent food truck, mais cliffhanger, jamais.
Et pour terminer, est-ce que c'est pas aussi les acteurs du cinéma qui viennent piquer le boulot aux acteurs de la télévision? Maintenant, c'est un peu l'inverse.
Bande de salauds.
Tu peux pas dire ça.
C'est vraiment des cancres là.
Que ça.
C'est plus vicieux. Tu
c'est
vois.
Plus vicieux que ça.
Plus vicieux que Nagui, vous allez loin.
Ils ont craché sur la télévision pendant très longtemps parce que c'était pas un média noble. Et aujourd'hui, ils y viennent pour une simple et bonne raison, c'est que c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, on parle que le cinéma français va pas très très bien. Venir à la télévision, d'un seul coup, vous touchez 5,5 millions de téléspectateurs. Avant de faire 5 millions d'entrées au cinéma, il faut quand même sortir une grosse production. Ils y viennent parce que ça marche,
quoi.
Parce qu'il faut manger, parce que ça marche, et qu'il y a des comédiens qui se refont une santé. Vous parliez de Steve Buscemi tout à l'heure, il a fait une formidable série avec Martin Scorsese, Bordeaux Empire, et ça lui a complètement relancé sa carrière.
Au-delà, Annie et Bernard, du fait de travailler pour la télévision ou pour le cinéma, l'autre question, c'est de travailler pour la même série. Vous l'avez évoqué en disant, est-ce qu'on fait la suite ou pas? Vous êtes posé la question au tout début. Êtes-vous ou pas, sentez-vous prisonnier de la famille formidable?
Ah non, pas prisonnier, mais c'est vrai que TF1 va pas être content. Mais moi, je déplorais qu'on
va
fasse tous les ans.
Des trucs.
J'en peux dire encore des trucs. Je trouvais que quand c'était tous les deux ans, et d'une, ça me permettait de faire du théâtre, ce que je ne peux plus faire. Voilà. Bon, moi, c'est ça c'est, disons, mon regret.
La frustration, oui.
Et je trouvais que... Moi, je suis toujours optimiste. Je me dis, quand les gens nous ont aimés pendant 25 ans, pourquoi ils ne nous aimeraient pas pendant 30, tu vois? Et je trouvais que quand on se faisait oublier un peu et que les gens nous retrouvaient, c'était mieux. Que de les. Je me suis dit, ils vont arriver à nous flinguer, en fait.
Gava?
Je sais pas,
j'ai pas écouté.
J'écoute plus
Anne. Non, mais il est plus
lâche.
Il est lâche.
Ça peut nous flinguer. À vrai dire, ce qui est compliqué. Bah oui, puis en plus, c'est ma spécialité. Je vous signale que je suis président du Globe des Lâches. Alors, il faut quand même pas arrêter de me regarder avec ça.
Et les autres membres, c'est qui?
Bon, bah là, alors il y a des noms, il y a une liste, je vous le dis tout de suite. Mais non, non, mais c'est vrai que le faire tous les ans, le seul vrai problème à Vaudet, c'est que. Ça prend quand même beaucoup de temps et que par ailleurs, par exemple Annie qui joue au théâtre et qui aime ça et qui est une grande vedette de théâtre, elle peut moins en faire quoi. Et moi de temps en temps je peux pas faire
c'est bien,
vous
venez juste de répéter ce qu'elle vient de dire Bernard, c'est formidable.
Ça veut dire quoi? J'ai pas écouté ce qu'elle disait? Écoutez,
vous n'aviez vraiment pas écouté?
Je parlais avec mon ami Albert qui a la conversation.
Oui, c'est
et
ça.
Puis elle, bah, je le savais déjà qu'est-ce qu'elle avait dit, parce qu'elle avait déjà dit sur une autre chaîne.
Oui, mais vous.
Bah oui, alors.
C'est vraiment un vieux couple.
fait
et vous
quoi moi
il va me laisser dormir c'est le matin, il est tôt merde.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
C'est une reprise qui nous offre C'est déjà ça d'Alain Souchon, revue et corrigée par Lady Sœur dans la bande originale.
Une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Belle musique, soudain mon Soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon Soudan, celui de la parole échangée, on te casse les dents. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Assis rue de Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est hémophile, cool.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
La gentillesse incarnée, le talent aussi sont présents autour de cette table. Heureusement, cela va contraster avec Daniel Morin.
Quel bel enchaînement, quel bel enchaînement.
Donc je suis une fan absolue avant qu'ils disent du mal.
Oh, ah, c'est tellement bon. Ah. Goût. En France, il existe
notre feuilleton.
Il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi, une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire. France Inter. Une saga quotidienne avec le colossal Patrick Cohen, le fragile Augustin Trapenard, Nagui le terrible, Laetitia Gaillet, la journaliste sous surveillance psychiatrique, mais aussi Laurence, la directrice, mannequin pour Franck Provost, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr, tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter.
Enfin! On avance.
Aujourd'hui, en l'honneur de nos invités, toute la grille de France Inter est consacrée à la famille. Laurence, la directrice, fait son topo matinal.
Bon, dans 5 jours, c'est Noël, c'est l'esprit de famille. Hein. Sachez que, tout comme vous, ça m'emmerde l'esprit de famille. Mais vous allez faire un effort. N'oubliez pas que parmi nos auditeurs, il y a des gens de droite. Mais il y en a. Des gens pour qui Jingle Bell est un cri de ralliement. Aujourd'hui, vous donnerez donc un esprit de famille à vos émissions. C'est un ordre.
toujours prompt à réagir, Augustin Trapenard, l'homme aux commandes de l'émission culturelle de référence, Boomerang, le programme que quand tu crois que c'est fini, ça revient quand même. Augustin frappe fort d'entrée avec comme invité la famille Le Pen, qu'il essaye de réconcilier à l'antenne. Une belle tentative qui fonctionne, puisque jusqu'à la fin de l'émission, c'est un Jean-Marie Le Pen ému, et c'est un Jean-Marie Le Pen, l'œil gauche en larmes, et une Marine la morvonnée qu'on trouve enlacée dans le studio sous le regard attendri d'un Augustin qui, pour l'occasion, leur chante « Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grüßt deine Blätter ». Pendant ce temps, Laure Adler prépare son émission du soir, l'heure bleue. Pour l'occasion, elle invite une famille du nord de la France. Le père, Jackie, la mère, Jaquette, leurs 14 enfants, leurs 39 petits-enfants, qui ont pour la plupart Jackie comme grand-père et père à la fois. L'ambiance est chaleureuse et, ma foi, le fait que certains des petits-enfants aient des bras en trop et des yeux en moins pour raison de consanguinité n'empêche pas de faire la fête. Nagui, pour son émission, la bande originale, a fait venir Annie Dupéré et Bernard Lecoq, les parents de la série Une famille formidable. L'émission commence bien, mais après avoir demandé aux invités si pour des besoins de la série, ils couchaient ensemble de temps en temps, l'ambiance se gâte. Les invités, Bernard et Annie, ont répondu que non. Mais Nagui n'est pas satisfait de la réponse. Il est persuadé que les invités mentent et il les engueule. Mais vous vous foutez de moi ! Tout le monde couche avec ses collègues, tout le monde ! Enfin merde, vous n'allez pas me dire que je suis le seul à avoir une conscience professionnelle en imposant mes collaborateurs d'avoir des rapports intimes avec moi pour une plus grande cohérence de l'équipe et un esprit de bande plus convivial. Comme un silence gêné s'installe dans le studio, l'émission a beaucoup de mal à reprendre. Heureusement, Annie et Bernard sont de très grands professionnels. Ils sentent le malaise et finissent par dire à Nagui que oui, effectivement, pour les besoins de la série, ils couchent de temps en temps avec les maquilleuses et les costumières. Nagui arrête de faire la gueule et la bonne humeur revient en studio. Ah mon Dieu, quelle radio! Quelle radio d'excellence! Pas étonnant que les chiffres d'audience soient aussi élevés. Hein. Encore une fois, le challenge de la journée avec thème imposé a été un succès. Bref, aujourd'hui encore à Radio France, les animateurs ont relevé le défi. Réconciliation en direct, dédiabolisation de l'inceste, petit secret de tournage. Le programme fut aussi riche que varié. C'est incroyable et pourtant tout ça, c'est juste une journée ordinaire. À France Inter.
Bravo, Daniel Morin. Oui. La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour les fans de Bernard Lecoq et Annie Dupéré qui ont découvert qu'ils n'avaient que très peu de respect pour les téléspectateurs. Je les cite, on tourne mal mais vite, on aime bien bâcler. Je suis encore sous le choc, je vous comprends. Désolé pour tous les propriétaires de food truck qui ont été dévastés par le traitement ignoble, l'acharnement de Nagui contre cette noble profession. Et pourtant, c'est tellement pratique. Enfin, désolé pour les chats qui nous écoutent et qui se sont reconnus dans la catégorie chat très con d'Annie Dupéré. Et encore, vous en tirez bien à la pause. Elle nous a parlé de chien gros connard et de canari fils de pute.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Dans la bande originale, voici Mac DeMarco avec My Old Man.
Thank you.
Mac DeMarco avec My Old Man, la bande originale de votre été, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain avec toute la bande.
Merci Nagui et bonnes vacances. Demain, nouveau best-of de la bande originale. Rediffusion de l'émission du 23 mars avec la comédienne Alexandra Lamy et l'astrophysicien Hubert Reeves.